Bonsoir Laurence.
Deuxième partie de l'émission donc sur CNews et sur Europe 1 avec cette patiente qui a donc décidé de porter plainte après un viol commis au sein de l'hôpital Cochin à Paris. La victime de 34 ans avait été admise aux urgences et c'est à la suite d'un malaise qu'elle a été hospitalisée. Pendant la nuit, elle a été violée. Récit avec Marine Sabourin.
Il est 4h du matin lorsqu'un infirmier surprend un homme en train de violer une patiente inconsciente dans sa chambre. L'individu prend alors la fuite avec la carte bleue de sa victime. Ces faits, qui se sont déroulés dans l'hôpital public Cochin, sont un double traumatisme selon Alexandre Laubry, avocat de la victime.
Un premier traumatisme dû aux faits criminels dont elle a été victime, mais également au regard des circonstances, à savoir que ces faits criminels ont eu lieu dans un hôpital. Généralement, dans un hôpital, on se sent en sécurité, on y va pour être soigné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Décrit par la patiente et l'infirmier, l'individu est interpellé par la BAC quelques minutes plus tard sur la voie publique. Connu défavorablement des services de police, le suspect âgé de 22 ans était sous le coup de trois obligations de quitter le territoire français. La femme, par le biais de son avocat, a déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.
Un hôpital hospitalier ou tout établissement de santé a une obligation de surveillance. C'est pour ça que nous avons déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir l'information surtout. Est-ce qu'il y a eu une défaillance dans la prise en charge de ma cliente? Est-ce qu'il y a une défaillance dans l'obligation de surveillance?
L'individu est depuis le 30 octobre mis en examen et placé en détention provisoire pour viol, commis par une personne sous l'emprise de stupéfiants, vol et escroquerie.
Cette affaire est effrayante à tous les points de vue, Eric Nolot. Pour la jeune femme, pour ce que ça dit de l'hôpital, pour cet homme qui avait trois OQTF, une dizaine d'identités, plusieurs nationalités déclarées. En fait, vous le disiez il y a quelques instants, on a l'impression d'un délitement total et
oui,
permanent.
Alors, deux choses. Le viol est un crime, et là, c'est un crime aggravé de la situation d'extrême faiblesse dans laquelle se trouvait cette femme. Elle était hospitalisée, elle était inconsciente. Bon, bref, c'est l'horreur pure. Ensuite, j'estime, j'espère, et je pense ne pas être le seul, qu'à partir d'une certaine récurrence de faits divers, c'est-à-dire des crimes commis par des gens sous OQTF, un fait divers devient un fait de société. Là, on est devant un fait de société. Il y a des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français parce qu'ils ont l'obligation de la quitter et qu'en plus, ce sont des délinquants endurcis. Le CV de cet homme parle pour lui. Donc la question qui revient à chaque fois, c'est la même, mais peut-être qu'on obtiendra une réponse à force de la poser. Quand est-ce qu'on prendra la mesure de cette situation? Quand est-ce qu'on créera le cadre légal pour que ces gens soient renvoyés ailleurs que sur notre territoire et on s'en portera beaucoup mieux? Ensuite, effectivement, il y a quand même un audit qui s'impose à l'hôpital parce que cet homme ait pu entrer dans la chambre. Il séjournait quand même un moment avant que quelqu'un intervienne. Et encore heureux
oui,
que quelqu'un
soit intervenu. Hein, voilà. Qu'il a vu partir à 4h du matin.
Ça pose des questions sur la politique hospitalière en général et sur la sécurité à l'hôpital Cochin en particulier.
Alors, absolument. Alors, pourquoi il n'a pas été expulsé, cet homme-là? Parce qu'aucun des pays des nationalités qu'il a déclarées ne l'avait reconnu comme ressortissant.
Oui, enfin bon,
donc, évidemment, impossible de l'expulser parce qu'il ment à chaque fois sur ses nationalités.
Tout est grave et édifiant et tout fait, effectivement, fait social et fait de société et pas seulement fait divers dans cette affaire. Ce qui fait la jonction entre les deux, forme de déni de l'État et des structures hospitalières, c'est qu'apparemment les soignants, les services n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que la direction de l'hôpital a plus ou moins essayé d'étouffer cette affaire. Et ça, c'est
ce
peut-être
que disent
le plus grave.
Ouais.
Et on voit ce déni d'État. Il est absolument structurel, puisque le récit, le narratif, comme on dit, c'est que l'immigration est une chance. Et bon, voilà ce qui arrive. Deuxième chose, je pense qu'on se focalise sur la difficulté qu'il y a à expulser avec les laissez-passer consulaires, etc. Mais en réalité, le problème n'est pas d'expulser les gens, c'est d'abord, quand on a un problème de ce type, c'est de ne pas les laisser rentrer. Il y a eu à peu près 500 000 visas qui ont été accordés depuis le début du quinquennat de M. Macron, et c'est le même niveau. Ça a été un petit peu ralenti, écrété par le Covid. C'est inédit dans l'histoire, depuis les années 60. C'est vraiment une intensification comme jamais. Et il y a quelque chose qui est complètement fou, parce qu'en fait, on comprend bien que le respect des femmes, que le niveau de violence, parce que non seulement il y a un problème, une distance culturelle, si vous voulez, avec des sociétés qui sont vraiment, qui sont pas du tout, qui n'en sont pas là où nous en sommes. Et en fait, en plus, les gens qui viennent, ils sont particulièrement sélectionnés. C'est-à-dire que il y a un biais, c'est-à-dire que c'est pas vraiment l'élite de pays qui, eux, sont très en arrière de la main sur ces questions, disons, de rapport, notamment de respect des femmes. Donc, au total, je pense que personne ne s'interroge plus sur cette question de limiter le droit d'asile ou de limiter notamment les visas pour les étudiants, parce qu'en fait, une grande partie de cette affaire, ça n'est jamais rappelé, nous échappe. Traité de fonctionnement de l'Union européenne, articles 79 et 80, ça n'est plus du ressort de la France.
On revient au cas à présent. Cette femme, je l'ai à l'hôpital, je vois le jeune, alors qu'elle est inconsciente, alors qu'elle est, elle est malade. On franchit des caps tous les jours, en fait, dans la sauvagerie.
C'est très compliqué, en fait, de commenter l'horreur et d'avoir quelque chose d'intelligent à dire, à part que ça ne devrait pas arriver. En revanche, par contre, il y a des choses qui nous sont permises de commenter. Je vais me permettre de faire ce qu'on appelle maintenant de la récupération, c'est-à-dire que, en fait, je vais parler d'un fait divers pour essayer d'en tirer des conclusions politiques, ce que tout le monde devrait faire. Et moi, je m'arrête, en effet, sur ce qui a frappé Éric et Guillaume, c'est deux OQTF, en réalité. Trois OQTF. Et comment dire, je ne sais pas quelle est la responsabilité de l'hôpital dans cette histoire, mais la plainte contre X pour absence, défaut de surveillance, me paraît être moins légitime que la plainte contre l'État pour inaction en matière de sécurité et d'immigration. Et ça, c'est très important. C'était ce qui avait, je pense, frappé l'opinion au-delà de l'horreur du fait divers dans l'affaire Lola, c'était le fait politique, c'était l'OQTF. Bon, bah là, c'est la même chose. Donc ça veut dire que moi, je suis d'accord sur les deux points, en réalité. Enfin, je pense qu'on sera tous d'accord. Si on veut arrêter de devoir expulser trop de gens à qui on n'accorde pas le droit d'asile, il faut en effet ne pas les laisser rentrer. Guillaume disait à l'instant que le fonctionnement de l'Union européenne interdit, nous prive de la souveraineté en matière de décision. Il y a d'autres choses, d'autres éléments qui vont dans le même sens, c'est-à-dire que par exemple l'agence européenne Frontex, qui était censée être le gardien de nos frontières extérieures, a abdiqué sa mission, enfin le président français a démissionné il y a quelques mois parce qu'on lui interdisait d'exercer sa mission, de faire du pushback, c'est-à-dire de repousser des bateaux. La convention de Genève nous interdit de repousser des bateaux qui entrent. L'affaire de l'Ocean Viking a montré qu'en réalité quelqu'un qui décide de venir en Europe, on ne peut pas l'en empêcher, et une fois qu'il y est, il va où il veut puisqu'on a Schengen.
C'est ça, on ne peut pas s'attaquer aux causes des problèmes.
Exactement. Et quand aux conséquences, okay, une fois qu'il faut les gérer, Gérald Darmanin, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, a décidé de faire passer les possibilités de recours de 12 à 4, il en reste quand même encore 4, et on est dépendant, encore une fois, on n'est pas souverain, de la volonté, vous l'avez rappelé, des pays d'origine qui ne veulent pas faire revenir les gens, ne nous accorder des passés consulaires.
Ils ne sont pas de bonne nationalité, effectivement. Alors, j'aimerais juste revenir à cette affaire de l'hôpital, parce que moi, elle me heurte beaucoup. On va écouter une infirmière, parce qu'il y a aussi le sentiment que l'hôpital a tenté d'étouffer l'affaire, pour pas que ça sorte, évidemment. Écoutez cette infirmière.
L'équipe de nuit n'a pas été informée des suites données. Il y a eu une vague rumeur qui a circulé au sein d'une toute petite partie de l'équipe. Moi, j'ai l'impression que ça a été étouffé, cette affaire, puisque même l'autre partie de l'équipe de nuit n'en a plus entendu parler après. L'équipe de jour n'est absolument pas informée de ce qui s'est passé la nuit. Il n'y a pas eu de réunion de service pour mettre les choses sur la table, pour voir qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il n'y a pas eu de communication au sein du service de la part des supérieurs hiérarchiques, de l'encadrement, du chef de service et de la direction.
Il n'y a rien qui va dans cette affaire, en fait, Eric Nolot. Il n'y a rien. Rien n'est juste, rien n'est maîtrisé, contrôlé.
Il y a une chose qui est claire, c'est qu'apparemment il y a une tentative d'étouffement. Voilà. Alors après, ce qui n'est pas clair, est-ce que...
De l'affaire.
Est-ce que la tentative d'étouffement correspond à l'hôpital qui veut protéger sa réputation, ou, d'ailleurs c'est compatible, hein, les deux explications sont compatibles, ou est-ce qu'il ne faut pas contrarier une certaine idéologie? C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ce qui se passe en France...
C'est le pas de vague, quoi. Oui, on entend aussi à l'éducation nationale.
Est-ce que c'est le pas de vague idéologique, ou c'est juste l'hôpital qui dit... Alors là, vraiment, ça la fout mal, voilà. Mais dans tous les cas, c'est catastrophique et c'est même criminel, parce que ça veut dire qu'ils ne créent pas les conditions pour que ça ne se reproduise pas. Les équipes ne sont pas alertées, les équipes donc ne seront pas formées, et donc elles ne sauront pas réagir ou, si possible, c'est même mieux, prévenir ce genre de crime. Non, mais ça, c'est...
Un tout dernier mot, rapidement.
C'est un phénomène qu'on pourrait décrire comme la tiers-mondisation des services publics. C'est-à-dire que c'est ce qui peut se passer dans un pays en voie de développement dans lequel la sécurité n'est pas assurée, dans lequel il n'y a pas suffisamment de gens pour surveiller les patients, etc. Et dans lequel... vraiment, l'ordre public est fragile, c'est normal. Dans certains pays en voie de développement, ils n'en ont pas les moyens. Le problème, c'est que l'hôpital, c'était la fierté de la France dans les années 80-90. On était un modèle dans le monde entier. Et donc, il y a eu tiers vagabondisation aussi pour un phénomène que les économistes appellent le passager clandestin. C'est-à-dire que quand vous faites, c'est le phénomène du métro, c'est-à-dire si vous prenez le métro sans payer votre ticket, si vous êtes une personne qui prend le métro sans payer le ticket, ça va. Si vous noyez le métro avec des gens qui ne payent pas leur ticket, et c'est bien ce qui se passe avec cette immigration non contrôlée.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de ce qui se passe à Mayotte, où les violences prennent des proportions absolument effrayantes. On écoutera une députée mahoraise tirer la sonnette d'alarme et dire que vraiment, l'île est au bord de l'explosion. A tout de suite, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.